Mémoire en chantier, magazine Planète Info. En décembre dernier, s'est achevée la première biennale du réseau pour l'histoire et la mémoire des immigrations et des territoires en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 3 mois d'exposition, de spectacles, de projections et de rencontres de Menton à Marseille. Inhérent à la constitution du réseau en 2009, cette biennale se voulait recenser, promouvoir et solliciter tous les projets visant à montrer que la Provence est une terre de migration. Au finish, ce sont des dizaines d'initiatives portées par les associations, les artistes, les universitaires et les archives locales et départementales qui ont été proposées au public de la région PACA. Des anciens camps de harkis aux travailleurs indo-chinois en Camargue, du passé des chantiers navals de la Seine-sur-Mer aux anciens mineurs de Gardanne, c'est une facette souvent méconnue de l'histoire contemporaine de cette région qui a été mise en lumière. À Marseille, Ramzi Trados est coordinateur du réseau Histoire, Mémoire, Immigration et Territoire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Oui, la Provence est une région de passage, parce que si on prend le centre de cette région, elle est entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, entre la terre et la mer, et donc forcément, des Espagnols qui quittent leur pays pendant la guerre d'Espagne passent par ici. Les Italiens qui cherchent du travail ou qui fuient le fascisme passent par notre région. Les gens du Nord qui vont vers le Sud à l'époque de la découverte et de la colonisation passent aussi par ici. Et les travailleurs et les intellectuels aussi passent par là. Donc c'est vraiment une région dont l'histoire ne se comprend que par ça.
Cependant, Marseille occupe une place prépondérante dans cette région.
Bien sûr, j'ai pas voulu dire Marseille, le centre, mais c'est vrai que le port de Marseille depuis l'Antiquité est ce point de passage, ce point de convergence, et on voit constamment les traces de ce passage-là, même si aujourd'hui, pour des raisons politiques dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant, on essaye de temps en temps d'occulter cette histoire-là. J'en veux que pour preuve une des dernières conférences qui était dans le cadre de cette biennale, qui racontait l'histoire de Marseille pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un espace où se sont configurés l'avenir pratiquement de la région sud de l'Europe, puisque les républicains espagnols s'étaient concentrés ici, se sont reconstitués ici, dans l'exil, les antifascistes italiens également, mais aussi les intellectuels allemands. Tous les réfugiés de l'Europe sont passés, intellectuels, penseurs, acteurs politiques, sont passés par la ville de Marseille pour trouver un autre refuge et se sont côtoyés, échangés. C'était un point fondamental de l'histoire du XXe siècle.
De cette période contemporaine, plus récente, des immigrations venues d'Afrique subsaharienne, du Comore, du Maghreb, des populations que l'on retrouve aujourd'hui dans les quartiers de Nice, Toulon et Marseille.
Oui, alors je dirais qu'à la rigueur, si on observe que cette phase-là, on ne comprend pas grand-chose. Si, juste, vous me permettez de revenir un peu dans le passé, on voit que les premiers travailleurs venant des colonies, qu'ils soient indo-chinois, algériens, africains, passent par Marseille aussi. Que ce soit dans la Première Guerre mondiale, où on fait venir les premières troupes coloniales, les premiers ouvriers coloniaux, travailleurs coloniaux, qui vont remplacer les hommes partis à la guerre. C'est déjà l'histoire qui est en marche, sans parler du 19e, voire du 18e siècle, où déjà cette région est une région de brassage des ce qu'on appelait les Levantins, et les Espagnols, les Catalans, etc. Marseille, ville de croisements, d'échanges et de passages toujours. Donc aujourd'hui, c'est une juste continuité de cette histoire-là. Peut-être que les moyens de communication sont plus faciles pour venir de plus loin, mais avant que les gens ne viennent de plus loin, on a été aussi les occuper des fois, les coloniser. Hein. Une des histoires qui est racontée de manière magistrale ici, c'est celle des travailleurs indochinois. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on voit des Chinois, des Vietnamiens, comme si c'était quelque chose de nouveau, mais depuis déjà la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a une population importante d'Indochinois qui vit dans la région et qui ont apporté même des techniques spécifiques qui ont fait du riz de Camargue ce qu'il est aujourd'hui.
C'est aussi l'objet donc d'une exposition qui a été réalisée qui montre que finalement le riz français est une importation asiatique.
Voilà, d'une certaine manière, ces travailleurs qui ont été amenés de force en France pour travailler dans les usines, surtout d'armement. Donc certains ont été à Saint-Chamas justement pour travailler dans les usines, les cartoucheries, etc. Mais un certain nombre d'entre eux, n'ayant pas de poste dans ces usines, ont travaillé dans les rizières. Le riz à l'époque était essentiellement destiné au bétail.
Il est important à noter que ce réseau pour l'histoire et la mémoire des immigrations et des territoires regroupe à la fois des universitaires, des chercheurs et le tissu associatif, sans qui finalement rien ne pourrait se faire aujourd'hui.
Voilà. Alors, justement, on est une des régions qui a le plus tardé à mettre en place un réseau de ce type-là. Mais peut-être le fait de le faire tardivement, c'est aussi une marque de maturité. C'est pour cela qu'on voit vraiment un réseau avec les équipements patrimoniaux et culturels comme les bibliothèques, les archives départementales des différents départements, mais les chercheurs, que ce soit de Nice ou de la région aixoise et de Marseille, les associations et des institutions publiques aussi, hein, puisqu'il y a aussi la DRJSCS, la Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale, qui est dans la dynamique de ce réseau. Et bien entendu, on le voit maintenant, concrètement, les associations sont la colonne vertébrale, parce qu'elle irrigue toutes les territoires, les plus petits villages ont des associations qui s'intéressent à leur histoire, à leur mémoire, et à un moment donné, ils croient cette question de l'immigration. Et c'est à travers cette collaboration que cette valorisation et ce retour vers cette histoire riche s'opère. Si on l'a dans l'université, on le sait depuis longtemps, ça. Mais ça reste dans l'université, ça reste dans les revues spécialisées, ça reste dans les colloques. Le rôle des associations aussi, et le rôle du réseau particulièrement, c'est de faire en sorte que toute cette richesse aussi circule et que les chercheurs aussi s'imprègnent de ce qui se passe sur le territoire. Je sais que vous allez visiter la Seyne-sur-Mer où il y a une très belle exposition. C'est quand même porté par une association. Histoire et patrimoine sénois, elle s'est aidée des autres associations, mais elle s'est aidée aussi des chercheurs, de l'appui des archives départementales du Var, et c'est ce travail coordonné de partenariat qui amène des choses extraordinairement riches.
Au-delà de cette biennale 2011, que va-t-il se passer et quel avenir pour le réseau ?
Oui, alors cette biennale est un point fondamental pour le réseau. Je vous avoue que, étant à la coordination de ce réseau depuis le début, personne, y compris nous, à Approche Culture et Territoire, on imaginait une biennale aussi riche, aussi intéressante pour celle de 2011. Mais en même temps, chemin faisant, on a découvert aussi qu'est-ce qui peut l'enrichir dans l'avenir. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le lien avec les associations et les territoires. J'en veux pour preuve que dans ce programme de cette biennale, il y a 64 manifestations. 54 de ces manifestations sont dans les Bouches-du-Rhône. La moitié de ces 50 sont à Marseille. Donc on voit déjà l'importance d'un territoire qui est très riche en associations. Mais on voit aussi que sur ce territoire marseillais, là où on a le plus d'informations, c'est dans les quartiers où il y a le plus de liens avec les associations, notamment par exemple le 15-16, qui est très présent dans la biennale, mais parce que le travail est entamé depuis longtemps. Donc on sait que pour la prochaine biennale, ce qu'il faut, c'est aller au plus près des gens, rencontrer les associations, rencontrer les acteurs, rencontrer les témoins, bien sûr. On n'a pas le moyen de tout faire, mais c'est une démarche de longue haleine et surtout une démarche passionnante.
Présent, Stéphane Gravier vous emmène à la Seyne-sur-Mer, aux portes de Toulon. Ancienne cité ouvrière, l'histoire de cette ville a été pendant 200 ans intimement liée à la construction navale. En 1989, les chantiers ont été définitivement fermés, malgré plusieurs mois d'une lutte mémorable des salariés. Dans le cadre de la Biennale du Réseau pour l'Histoire et la Mémoire des Immigrations et des Territoires en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Association pour l'Histoire et le Patrimoine Sénois présente l'exposition « Nous, venus d'ailleurs, immigrer, vivre et travailler à la Seyne-sur-Mer de 1945 à nos jours ». Une exposition qui donne à voir et à entendre ces femmes et ces hommes venus vivre et travailler à la Seyne dans l'espoir d'une vie meilleure, qui ont contribué à façonner l'identité de cette ville. André Bensoussan, commissaire de l'exposition « Nous, venus d'ailleurs ».
Elle nous raconte justement ce que peut représenter cette aventure de l'immigration. Qu'on soit italien venu après 45, dans les années 50, ou qu'on soit maghrébin, africain, homme, femme, et même jeune. On a essayé justement de couvrir tous les âges, toutes les origines, pour montrer des individus, qui, arrivant ici, vont s'insérer de façon différente avec certains des parcours très durs. Ce sont les plus âgés, les moins qualifiés, qu'on retrouve au foyer Happy, mais d'autres qui ont su... qui n'ont pas eu les mêmes difficultés professionnelles, qui ont eu de vrais parcours professionnels, qui ont tous, alors quel que soit leur parcours, ont participé à la vie de la Seyne. Ce qu'on a voulu justement, c'est insérer ces gens, venus d'ailleurs, les insérer dans l'histoire de la Seyne. Tous les premiers panneaux là dans le couloir, c'est justement rappeler l'histoire, l'histoire nationale, l'histoire locale, les événements qui concernent ces individus, ces hommes et ces femmes, et puis les endroits où ils se sont installés à la Seyne. Et pour les Sénois, ce qui est frappant, ils découvrent justement, ou ils redécouvrent comment la Seyne a été une ville d'immigration, des vagues successives qui ont occupé les mêmes lieux, avec aussi les Sénois qui viennent visiter, et même des croisiéristes qui viennent, qui se sentent concernés, quelqu'un venu du Venezuela, qui se sentait concerné par cette histoire qui n'est pas souvent écrite. Ce qui nous fait le plus chaud au cœur, c'est la réaction des scolaires. On a eu 10 lycées, les trois grands établissements de la Seyne. On a eu aussi un collège et on va même avoir une classe primaire. Hein, et à chaque fois, ce qui est très 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 satisfaisant, hein, c'est de voir qu'ils se sentent vraiment concernés. Ils disent ça, c'est pas une exposition comme une autre. Là, c'est vraiment vivant, c'est de la vie, c'est nous. Alors certains disent bon, nous, moi je suis d'origine portugaise, moi ceci, moi cela, et ils sentent qu'il s'agit d'une aventure humaine, quoi.
Est-ce que la Seine, là nous sommes au cœur de ville, mais la Seine pendant très longtemps a été une ville navale, de oui. construction navale, et, oui. et c'est vrai que ces chantiers de la construction navale avaient besoin de main d'œuvre.
Oui, j'aurais dû d'ailleurs dire ça dès le début parce que c'est vrai, vous voyez, la scénographie le souligne, hein, c'est le travail, hein, et le travail sur les chantiers qui a attiré le gros de cette main-d'œuvre. Hein. Si ce n'était pas les chantiers, c'était le bâtiment pour accueillir justement les travailleurs qui travaillaient au chantier. Donc ça a été le poumon de la ville, et à travers les témoignages que l'on a, notamment des jeunes, c'est-à-dire ceux jeunes, enfin, qui ont une quarantaine d'années maintenant et qui sont pour certains nés, mais tous ont grandi à la Seine. Et ce qui est très net quand on entend leurs témoignages, notamment sur Berthe, c'est comment à la Seine, la fin des chantiers, c'est une rupture. Hein. C'est un vrai véritable traumatisme qui se traduit dans le quotidien, notamment de ces jeunes.
Pour les touristes qui viendront cet été sur la Seine-sur-Mer, un vestige, une grue face à l'hôtel de ville sur le port, c'est la seule trace matérielle, mais ces traces humaines, vous avez souhaité leur donner la parole.
Oui, ben c'est justement, si dans l'association on s'est orienté vers ce travail de ce qu'on appelait d'archives sonores, hein, c'était justement parce qu'il n'y avait plus de... Il ne restait plus rien, finalement, des chantiers en dehors du pont, hein, qui est maintenant rigide, hein, et du pont qui était basculant, qui est maintenant dressé sur le port. La porte des chantiers ont été démolies, peu de temps avant qu'on commence cette collecte, hein, ont été démolies ce qui se trouvait face à la porte, qui était la cantine et qui était ce qu'on appelait la clinique des chantiers. Il reste un peu plus loin l'atelier mécanique. Hein, et ce qu'on espère, nous, c'est que tout ce travail qu'on a fait pourra un jour trouver sa place dans ce qui sera un centre d'interprétation de la navale. Enfin, voilà. C'est tout à fait dans cet esprit. On a, il n'y a plus de grandes traces, plus tellement de bâtis. Gardons la mémoire.
C'est vrai que lorsque l'on rentre dans cette exposition de salle, on découvre à la fois des articles de presse, des photographies, des objets personnels, des papiers d'identité et puis des valises. Parce que les valises, c'est ce qui symbolise le migrant.
Oui. Bon, c'est une image très traditionnelle, hein, là. Mais ce qui a été très intelligent de la part du scénographe, c'est quand on lui a proposé quatre individus venant de différentes régions, hein, de différentes origines, mais qui avaient tous fait souche à la Seine, l'idée de faire des valises ouvertes. D'avoir confectionné des petits tabourets pour qu'on puisse écouter. Le problème, c'était aussi comment on allait écouter. Alors, ce n'était pas une écoute collective comme ça, ce n'était pas possible. Donc, l'idée de ces casques pour qu'on puisse s'isoler face à la valise où se trouve décrit la vie, les objets personnels de chacun chacun de ces immigrés.
Eh bien, je m'appelle Serge Mira, je suis né à Taranto, en Italie, le 1er novembre 1950. Et c'est une ville de Taranto qui ressemble un petit peu à la ville de Toulon, qui est très... Il y a un chantier naval. Et c'est à la suite des licenciements de ce fameux chantier naval que nous avons atterri à la Seine. D'abord, mon père qui est venu dans les années 57 pour rechercher du travail, parce qu'on ne pouvait venir en France que si on avait un contrat de travail. Donc en 57, il est arrivé, il est resté pratiquement un an, parce qu'il fallait trouver du travail d'abord, une place sûre, un logement, et après faire réintégrer la famille. Et nous sommes arrivés en France, à la Seyne, donc, en juillet 58. Voilà. Parti d'une famille bourgeoise en Italie, parce qu'on était hébergé chez mes grands-parents, qui étaient des marins. Mon grand-père était gradé de la marine, donc il y avait une famille un petit peu aisée. Et une enfance très, très aimée, très choyée, très entourée. Et quand on est arrivé en France, ça a été un petit peu la désillusion, parce qu'on s'attendait à avoir l'Eldorado. Et puis en fait, on avait un petit meublé de deux pièces, avec un guise de toilette, une espèce de bassin qui servait de toupine à l'époque. Et on avait mal accepté ça, quoi. On s'attendait à autre chose quand on est arrivé, mais bon. Mon père, lui, était un petit peu déçu que nous prenions ça mal. Ils étaient décarcassés pour trouver ce petit truc pour qu'on puisse venir. Ma mère, à la suite de ça, a fait une dépression, une déprime. Elle voulait rentrer en Italie, ne voulait pas rester là. J'avais 7 ans et demi, mais je me suis dit, bon, ben, ça ira mieux après. Donc il fallait que je soutienne ma mère pour lui faire comprendre que ça allait s'arranger. Ben, c'était le frère aîné qui a poussé tout le monde à l'intégration, en fait. C'était moi qui était le... J'étais rentré dans le monde des adultes, donc il fallait que j'aide les autres à s'intégrer. Et d'ailleurs, c'était un point d'honneur qu'on avait à se fondre dans la masse et à ne pas nous prendre pour des étrangers, quoi.
Ces individus, pour certains, on peut encore les croiser. Ils vivent, résident à la Seyne-sur-Mer, à l'image de Serge Mira, qui est d'origine italienne.
Il est d'origine italienne, il vient de Tarente, hein, c'est-à-dire le sud de l'Italie. Et... venant de Tarente, d'une famille bourgeoise, la chute a été rude quand il s'est retrouvé dans le quartier populaire et pauvre de Place de la Lune, hein, qui était le quartier qu'avaient occupé les Italiens et qu'occupaient là, en même temps que lui, des Maghrébins, des Sénégalais. Et ce qui avait été rude pour sa mère, hein, c'était la fameuse corvée des taupines, c'est-à-dire il n'y avait pas de sanitaire, quoi, hein, donc c'était des seaux hygiéniques à transporter. Voilà, mais sont venus à l'exposition tous les témoins, et le jour de l'inauguration, ça, c'était assez extraordinaire, parce que d'abord, on a eu du monde, 150 personnes au moins, et surtout des gens qui ne viennent pas habituellement dans des inaugurations, c'est-à-dire nos témoins avec leurs enfants. Il y a même eu les travailleurs du foyer Happy qui sont venus avec un déambulatoire, parce qu'il y en avait un qui avait tous ses genoux dans un très sale état, parce qu'il ne faisait que monter et descendre sur les bateaux. Il était là, il a écouté, c'était très émouvant. Il y a eu également la veuve de Jean Mendy qui est venue et qui a vu la façon dont le scénographe avait mis en évidence le portrait de son mari, et elle nous a dit « il est bien là ».
Jean Mendy, un ouvrier de la navale, mort de l'amiante.
Oui. Jean Mendy est mort de l'amiante, il avait 54 ans, il a laissé 4 enfants. Sa veuve a témoigné, il est mort en 2004, si je ne me trompe, et elle précise que depuis qu'il est mort, elle ne touche plus cette allocation, parce qu'elle a l'amiante avait été reconnue comme une maladie professionnelle, mais sa mort n'est pas reconnue comme liée à cette maladie. Voilà, donc elle se bat pour ça. Et puis, on a eu d'autres témoignages sur l'amiante, notamment Serge Mira, qui est venu, je vous le disais, qui est venu quand on a fait cette table ronde autour de l'exposition le 1er décembre. Serge Mira dit lui-même, bon voilà, chaque année ou tous les deux ans, je ne sais plus, il faut que je fasse un contrôle médical, parce que l'amiante, on l'a tous respiré, quoi. Il précise même quelque chose qui est choquant. Il dit on nous avait donné comme bouclier pour nous protéger de la chaleur un bouclier en amiante. Merci du cadeau, dit-il dans le montage sonore. Voilà. Et bon, il dit, bon, ben moi, plus on attend, plus on vieillit, plus le danger s'éloigne, mais la menace est toujours là.
J'en ai l'honnête. Ouais. Ça, c'est autre
Jean.
Chose. Voilà, la lettre qu'elle a écrite.
Cher monsieur, nous revenons vers vous dans le cadre de l'offre d'indemnisation, réparation de vos préjudices patrimoniaux que le FIVA nous a fait parvenir.
De cette l'amiante.
La plupart d'entre eux souffrent de l'amiante. C'est
Et décédé de l'amiante.
Voilà.
Beaucoup sont morts par rapport à ça. Et ils n'ont jamais été indemnisés.
Ils étaient de Casamance.
Réellement.
Oui, oui.
Par rapport à cela.
Vous avez demandé auprès de nos services le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.
C'est moi qui ai écrit ça.
Vous avez donc peut-être exposé un. Hein,
mon père aussi actuellement à l'amiante. Et je sais que bon, sa vie est foutue. Hein. Il ne vivra peut-être jamais une vie comme il aurait pu vivre normalement.
André Bensoussan, je rappelle que vous êtes commissaire de l'exposition Histoire et patrimoine sénois, une exposition nous venue d'ailleurs. Quelle vie pour cette exposition au-delà de cette présentation?
Voilà, alors justement, là, on doit fermer. Là, on est resté quand même depuis le 9 septembre. C'était la première fois que la Maison du patrimoine à la Seyne-sur-Mer abritait une exposition et aussi longtemps, hein, surtout. Voilà, alors après le 15 septembre, elle est démontée, elle va peut-être dormir quelque temps, mais on espère. Elle a été faite pour être itinérante, hein. Vous remarquez que rien n'est accroché au mur, etc. Tout se démonte. Elle doit aller dans d'autres endroits parce que si c'est la Seyne-sur-Mer qui est, si on a fait du local, hein, ce qu'on décrit, c'est assez universel, hein, et ça concerne un petit peu l'immigration dans différentes villes. Donc elle doit aller à Marseille. Elle doit aller à nouveau à la Seyne en septembre prochain. Dans le quartier Berthe, hein, dans le centre Nelson Mandela, qui s'est dit intéressé. Donc Marseille, j'ai bien dit, on espère Toulon. Voilà, on veut la faire tourner. L'autre projet pour en garder des traces, c'est de faire une publication avec tous ces témoignages, avec tous les éléments de l'exposition et tout ce qui a été fait et dit au cours de cette table ronde du 1er décembre. Voilà.
Dernière question. Quel est l'intérêt pour vous d'être membre de ce réseau pour l'histoire et la mémoire des immigrations et des territoires?
Alors, bon, justement, c'est de pouvoir voir que ce que l'on fait là, par exemple, c'est grâce à ce réseau aussi que j'ai connu le montage qui s'est fait sur les Algériens à Marseille, par exemple. On a eu des contacts, certains de nos. L'universitaire qui nous a servi de guide scientifique, de caution scientifique, si je puis dire. Et c'est lui, fait partie de ce réseau, hein, c'est Yvan Gasteau, qui est universitaire à Nice, et qui est venu avec ses jeunes chercheurs, ses doctorants, qui a donc valorisé le réseau, nous a servi à valoriser ce travail et à le faire rayonner. Hein, voilà.
Planète Info, une émission réalisée par Stéphane Gravier et présentée par Manjushri Pradhan.